Chapitre 23. Des ornements. Dans la pièce, il faisait légèrement plus chaud qu'à l'extérieur, pas assez cependant pour empêcher que de la buée recouvre les vitres de la fenêtre à l'encadrement peint en rouge. Circonstance aggravante, le verre était truffé de bulles. Pourtant, Katsuane continuait à regarder dehors, comme si elle avait pu voir clairement le paysage désolé. Rien d'étonnant, puisque c'était le cas, avec une clarté suffisante pour le moins. Dans les champs, des hommes et des femmes portant plusieurs couches de vêtements, des silhouettes indistinctes, n'étaient la forme reconnaissable d'une jupe ou d'un pantalon, pataugeaient dans la gadoue et se baissaient régulièrement pour saisir une poignée de terre et la relâcher lentement. Bientôt, il serait temps de labourer puis d'épandre l'engrais. Dans cette pénible inspection, bien malin qui aurait pu dire que le printemps approchait. Au-delà des champs, sous un ciel matinal morose, la forêt n'était qu'une immense réserve de branches dénudées et d'arbustes déplumés. Sous une bonne couche de poudreuse, le paysage aurait paru moins sinistre, mais il neigeait rarement dans la région, et les flocons ne tenaient pas. Cela dit, Katsuane n'aurait pas pu imaginer un meilleur cadre pour ce qu'elle avait en tête. La colonne vertébrale du monde a un peu plus d'une journée de cheval vers l'est, qui aurait pu dire mieux? Et qui serait allé chercher en Théar? Mais convaincre le garçon de rester ici n'avait-il pas été trop facile? Avec un soupir, la sœur de légende se détourna de la fenêtre, et les ornements en or accrochés à ses cheveux oscillèrent en rythme. Toute une série d'étoiles, de lunes, d'oiseaux et de poissons miniatures. Ces derniers temps, elle était en permanence consciente de leur présence. Consciente? Un euphémisme. Ces derniers temps, elle avait envisagé de dormir avec. Comme le manoir tout entier, le salon était vaste, mais pas du tout décoré, avec des corniches en bois sculpté, elles aussi peintes en rouge. Tartinées de peinture, les meubles n'arboraient pas la moindre dorure, et les chenets en fer forgé des deux longues cheminées en pierre ordinaire frappaient par leur aspect fonctionnel, dépourvu d'ambition esthétique. À la demande de Katsuane, les feux n'étaient pas très vifs, mais suffisants pour qu'elle se réchauffe les mains, et elle ne demandait rien de plus. Si elle l'avait laissé faire, Algarine l'aurait forcé à vivre dans une fournaise, et les rares servantes qui l'employaient encore lui auraient sans cesse tourné autour. Seigneur de la tour mineure, il ne roulait pas sur l'or. Pourtant, il s'acquittait de ses dettes rubis sur l'ongle, y compris quand beaucoup d'hommes à sa place auraient eu le sentiment qu'on leur devait quelque chose. La porte sans sculpture qui donnait sur le couloir s'ouvrit en grinçant. Comme Algarine lui-même, les domestiques n'étaient plus de la première jeunesse. Encore assez ingambes pour tout briquer et ne jamais laisser les lampes sans huile ni mèches mal taillées, ils négligeaient les gonds, qui n'avaient plus vu de graisse depuis des années. Vérine entra, toujours dans sa tenue de voyage, son manteau plié sur un bras. L'air contrarié, elle tapota ses cheveux grisonnants pour rappeler à l'ordre quelques mèches indisciplinées.
« Katsuane, maugréa-t-elle. Les Hatan Mirés sont à Théar. Mission accomplie. Je ne me suis pas approché de la pierre, mais j'ai entendu dire que le haut seigneur Astoril, cessant enfin de gémir sur ses vieilles articulations, a rejoint Darline à l'intérieur. Qui aurait cru qu'il ferait l'effort de bouger, et pour se ranger du côté de Darline en plus? Les rues sont pleines de soldats qui se saoulent et passent leur temps à se bagarrer quand ils n'affrontent pas les Hatan Mirés. À ce propos, ils sont aussi nombreux en ville que tous les autres réunis. Arin en était horrifiée. Dès qu'elle a pu louer un canot, elle a filé vers les bateaux avec l'espoir d'être nommée maîtresse des navires et de remettre de l'ordre dans tout ça. Quant à Nesta d'Inreas, elle est bien morte. Ça ne fait plus l'ombre d'un doute. »
Katsuane fut ravie de laisser la petite femme replète bavarder. Cela dit, Vérine n'était pas aussi distraite qu'elle voulait le faire croire. Certaines sœurs marrons étaient bel et bien capables de trébucher sur leurs propres pieds, faute de les avoir vues. Vérine comptait parmi celles qui se cachaient derrière ce rideau de fumée. Et elle faisait mine de croire que Katsuane gobait cette mystification. Cela dit, quand il y avait une remarque à lancer, elle ne s'en privait pas. Et ce qu'elle ne disait pas pouvait être tout aussi révélateur. Du coup, Katsuane lui faisait moins confiance qu'elle l'aurait voulu. L'incertitude était indissociable de la vie, certes, mais elle doutait de trop de choses pour se sentir bien. Manque de chance, Mine avait dû écouter à la porte, et la patience n'était pas son fort.
« J'ai dit à Arin que ça ne se passerait pas comme ça !»
s'écria-t-elle en déboulant dans la pièce.
« Et j'ai ajouté qu'elle serait punie pour l'accord qu'elle a passé avec Rand. Après, elle aura une chance de devenir maîtresse des navires. Dans 10 jours ou dans 10 ans, je serai bien incapable de le dire. »
Mince, jolie et grande, grâce à ses bottes rouges à talons hauts, ses boucles noires lui tombant sur les épaules, Mine avait une voix grave, mais très féminine. En revanche, elle portait une veste rouge et un pantalon bleu de garçon. Des broderies florales ornaient les manches et les revers de la veste, et elles étaient reprises sur des bandes côté externe du pantalon. Mais ça restait une tenue d'homme.
« Tu peux entrer, Mine, »
lâcha froidement Katsuane. Le genre de ton qui incitait les gens à se mettre garde à vous quand ils la connaissaient. Mine s'empourpra un peu.
« Grâce à ta vision, la maîtresse des vagues sait déjà sûrement tout ce qui l'attend. J'en ai peur, en tout cas. Mais à te voir si pressée, j'imagine que tu as lu une autre aura et que tu brûles d'envie de me faire ton rapport. »
Par le passé, le don très spécial de Mine s'était révélé utile, et il pouvait encore servir. Enfin, peut-être. D'après ce que Katsuane savait, la jeune femme ne mentait pas sur ce qu'elle voyait dans les images et les auras qui flottaient autour des gens, mais elle ne disait pas tout non plus. Spécialement quand on en venait à une certaine personne, celle, justement, dont Katsuane aurait voulu tout savoir. Empourprée ou non, Mine pointa fièrement le menton. Elle avait changé depuis Shadar Logoth. Ou le processus avait-il commencé avant? Quoi qu'il en soit, ça n'était pas pour le mieux.
« Rand veut que vous veniez le voir. Il m'a chargé de vous le demander, donc inutile de ronchonner. »
Katsuane se contenta de dévisager son interlocutrice et laissa le silence s'éterniser. Ronchonner? Décidément, ça n'était pas pour le mieux, ce changement.
« Dis-lui que je viendrai quand j'aurai le temps, » répondit enfin Katsuane. « Et ferme la porte en sortant. »
Mine ouvrit la bouche pour répliquer, mais elle eut la sagesse de s'en abstenir. Malgré ses bottes ridicules, elle se fendit d'une révérence sans se casser la figure, puis se retira et ferma docilement la porte, à un souffle de la claquer cependant. Vérine secoua la tête et eut un rire sans grande joie.
« Katsuane, elle est amoureuse de Rand, et elle a glissé son cœur dans la poche du garçon. Elle suivra ses sentiments, quoi que tu dises ou fasses. Je crois qu'elle est terrifiée parce qu'il a failli mourir sous ses yeux. » Et tu sais combien ce genre de choses renforce la détermination d'une femme. »
Katsuane pinça les lèvres. Sur les hommes, Vérine en savait beaucoup plus long qu'elle, car elle ne s'était jamais autorisée une relation avec un de ses champions, à l'inverse de certaines sœurs vertes. Quant aux autres hommes, l'idée ne l'avait même jamais effleurée. Pourtant, Vérine avait failli mettre dans le mille par hasard. Parce qu'elle ignorait, enfin probablement, que le jeune Altor était lié à Mine. Et si la jeune femme n'avait pas un peu trop parlé, Katsuane non plus ne l'aurait pas su. Mais toutes les huîtres, même les mieux fermées, finissaient par rendre les armes quand on parvenait à enfoncer la lame au bon endroit. Parfois, la récompense était une superbe perle. Qu'elle l'aime ou non, Mine voulait que le garçon reste en vie. Mais pas plus que Katsuane, assurément. Son manteau déposé sur le dossier d'un fauteuil, Vérine vint se réchauffer les mains devant une des cheminées. Si elle ne glissait pas vraiment sur le sol, la sœur enveloppée se déplaçait avec plus de grâce qu'on l'aurait cru. En elle, qu'est-ce qui tenait de la dissimulation? Au fil du temps, les Aes Sedai apprenaient à porter une multitude de masques. Une habitude au bout d'un moment.
« Je crois que tout peut encore se régler pacifiquement, Atear, »
fit Vérine, comme si elle pensait tout haut, ou comme si elle voulait le faire croire à Katsuane.
« Et Arn et Simahan sont au bord du désespoir. » Mort de peur que les autres hauts seigneurs reviennent d'Iliane et les piègent en ville. Considérant leurs autres options, on pourra peut-être les forcer à accepter Darline. Estanda est d'un tout autre bois, mais si on lui prouve qu'elle a des avantages à en tirer... « Je t'ai dit de ne pas t'approcher de ces gens, »
coupa Katsuane. Surprise, Vérine cligna des yeux.
« Et j'ai obéi. Des rumeurs courent dans les rues, et je sais comment les comparer et en tirer une étincelle de vérité. » J'ai vu Alana et Rafaela, en revanche, mais je me suis caché derrière un marchand de tourte à la viande avant qu'elles m'aperçoivent. Je suis certaine qu'elles ne m'ont pas repéré.
Vérine se tut, attendant que Katsuane lui explique pourquoi elle avait eu ordre d'éviter aussi les sœurs.
Il faut que j'aille voir le garçon,
éluda la sœur de légende. L'inconvénient lorsqu'on acceptait de conseiller quelqu'un, même si on imposait les conditions les plus favorables, il fallait tôt ou tard répondre aux convocations. En principe, du moins. Là, c'était un prétexte rêvé pour échapper à la curiosité de Vérine. Au fond, tout était très simple. Quand on cherchait à résoudre les problèmes seuls, on ne trouvait aucune solution. et pour certains, la manière dont on les résolvait n'importait pas, en fin de compte. Partir sans répondre laisserait Vérine avec une énigme à résoudre, du grain à moudre, en somme. Quand elle n'était pas sûre d'une personne, Kat Soinet adorait la plonger aussi dans l'incertitude. Vérine reprit son manteau et sortit avec son interlocutrice. Avait-elle l'intention de l'accompagner? Dans le couloir, les deux Aes Sedai tombèrent sur Nesune, qui s'arrêta net, si pressée qu'elle parut. Très peu de gens pouvaient se vanter d'avoir un jour ignoré Kat Soinet. Nesune s'ajouta à la liste en s'adressant ostensiblement à Vérine.
Te voilà de retour?
Enfoncer les portes ouvertes, le génie bien particulier des sœurs Marron.
Tu as écrit un texte sur les animaux des terres naufragées, si je me souviens bien.
La preuve absolue que c'était vrai. Nesune avait une mémoire d'éléphant, un don utile, si Kat Soinet s'était assez fiée à elle pour recourir à ses services.
Le seigneur Algarine m'a montré l'impôt d'un serpent qui en vient, selon lui, mais je suis sûr que c'est le même que j'ai observé à...
Alors que Nesune la tirait par la manche, Vérine implora Kat Soinet du regard. Mais c'était trop tard. Entraînée dans le couloir, elle aurait droit à une longue conversation sur le serpent de malheur. Un spectacle remarquable et un peu troublant. Nesune soutenait Elaïda ou l'avait soutenue, tandis que Vérine entendait la renverser ou avait entendu. Et voilà qu'elle parlait de reptiles comme de vieilles amies. Si toutes les deux avaient juré fidélité au jeune Altor, ça tenait à sa nature de taverne, capable de tisser la trame autour de lui. Mais quel serment pouvait faire oublier à ces femmes leur conflit au sujet de la chair d'Amerline légitime? Ou était-elle affectée par la proximité d'un taverne? Kat Soinet aurait donné cher pour avoir la réponse. Aucun de ses ornements ne la protégerait d'un taverne. Dans le lot, elle ignorait à quoi servait une des lunes et deux poissons, mais sûrement pas à ça. Ne se creusait-elle pas la cervelle pour rien? La réponse, très simple, était peut-être que Vérine et Nesune appartenaient à l'âge Amarron. Ces sœurs-là pouvaient oublier n'importe quoi quand on leur donnait un sujet d'étude. Des serpents? Quelle horreur! Les ornements oscillèrent lorsque Kat Soinet se détourna, laissant les deux sœurs Marron dans son dos. Que lui voulait le garçon? Que ce soit utile ou non, jouer les conseillères ne lui avait jamais plu. Dans le couloir, les courants d'air taquinaient les antiques tapisseries usées à force d'avoir été décrochées puis rependues. Assez petit à l'origine, le manoir avait été étendu à la manière d'un corps de ferme, les dépendances s'ajoutant au gré des bonnes fortunes de la famille. Jamais vraiment prospères, les Pendaloan étaient très nombreux à une époque. Le résultat de cette équation, besoin d'espace mais pas d'argent, ne se voyait pas que sur les tapisseries. Les corniches peintes de couleurs vives, par exemple. Et les variations de taille et de hauteur des couloirs, qui ne se croisaient pas toujours à angle droit. Placées là uniquement pour fournir de la lumière, les fenêtres qui donnaient jadis sur les champs offraient à présent une vue sur des cours désertes, à part quelques bancs. Dans certains cas, pour aller d'un point à un autre, il fallait impérativement emprunter une passerelle à colonnade, qui dominait une de ces cours. Rarement sculptées, les colonnes étaient soigneusement peintes. Sur un de ces passages aux colonnes vertes, deux sœurs, accoudées à la balustrade, observaient l'activité dans la cour qui s'étendait à leurs pieds. Quand Kat Soinet ouvrit la porte de la passerelle, Beldaine la repéra du coin de l'œil et se raidit, tirant sur le châle à franges vertes qu'elle portait depuis moins de 5 ans. Jolie, des pommettes hautes, les yeux légèrement inclinés, elle n'avait pas encore accédé à l'intemporalité et paraissait plus jeune que mine. Surtout quand elle jeta un regard noir à Kat Soinet, puis pivota sur elle-même et détala comme un lièvre. Sa compagne, Mérise, eut un petit sourire, puis tira elle aussi sur son châle à franges vertes. Grande et le plus souvent morne, ses cheveux tirés en arrière soulignant la pâleur de son visage, Mérise n'avait rien d'une joyeuse luronne.
Beldaine s'inquiète, parce qu'elle n'a toujours pas de champion,
dit-elle avec son fort accent tarabonais, tandis que Kat Soinet s'immobilisait à ses côtés. Très vite, Mérise baissa de nouveau les yeux sur la cour.
Mais elle envisage de prendre un chaman, si elle en trouve un. Je lui ai conseillé d'en parler à Daigan. Si ça ne l'aide pas, ça aidera Daigan.
Tous les champions présents au manoir étaient rassemblés dans la cour pavée. En manches de chemise, malgré le froid, ils avaient pris place sur les bancs peints pour regarder deux des leurs s'entraîner avec des épées en bois. Jahar, un des trois champions de Mérise, était un beau jeune homme à la peau hâlée par le soleil. Sous la violence des coups, les clochettes d'argent accrochées à ses tresses tintinabulaient furieusement. Cet homme se déplaçait à la vitesse d'une lance et avec la souplesse d'un félin. Alors qu'il n'y avait pas de courant d'air sur la passerelle, l'étoile à 8 branches dans les cheveux de Kat Soinet s'affolait. Si elle l'avait posée dans sa main, l'Aes Sedai l'aurait sentie vibrer. Mais elle savait déjà que Jahar était un Ashaman. Et si l'étoile ne l'avait pas identifiée comme telle, elle aurait au moins reconnu un homme capable de canaliser. Plus il y en avait dans les environs, et plus l'artefact vibrait. Une bonne chose à savoir. L'adversaire de Jahar, un géant aux larges épaules et au visage de marbre, ses longs cheveux tenus sur le front par une lanière de cuir, n'était pas le second Ashaman présent dans la cour. Pourtant, à sa façon, il était aussi dangereux que les hommes en veste noire. L'âne ne semblait pas bouger aussi vite que Jahar. Pourtant, il était partout en même temps. Parant chaque coup, sa lame, composée de lattes de bois, forçait le jeune Ashaman à s'écarter insensiblement de son alignement idéal. Quand ce décalage fut suffisant, l'âne frappa, et sa lame percuta le flanc de Jahar avec un bruit assourdissant. Un coup mortel porté par une véritable épée. Alors que l'Ashaman titubait sous la violence du coup, l'âne se remit en garde, son alignement rigoureusement parfait. Un autre champion de Mérise, Netan, se leva. Mince, les tempes argentées, c'était lui aussi un géant, même s'il restait un rien plus petit que l'âne. Levant sa lame, Jahar lui fit signe de ne pas s'en mêler.
« Daigyan se remet ?» demanda Katsuane.
« Mieux que je l'espérais, » reconnut Mérise. « Elle reste trop longtemps dans sa chambre, mais au moins, quand elle pleure, c'est en privé. »
Mérise abandonna un instant les combattants pour observer le banc peint en verre où Thomas, le champion râblé et grisonnant de Vérine, était assis près d'un homme à la chiche couronne de cheveux blancs.
Damer a voulu tenter de la guérir, mais elle a refusé. Elle n'avait pas de champion avant Ébène, mais elle sait que porter le deuil est inévitable si on veut se souvenir de celui qu'on a perdu. Je m'étonne que Corel ait envisagé d'autoriser Damer à intervenir.
Avec un haussement d'épaule, la sœur originaire du Tarabon regarda de nouveau Jahar. Les champions des autres Aes Sedai ne l'intéressaient pas autant que les siens, loin de là.
Les Ashaman ont du chagrin, comme les champions. Au début, j'ai cru que Jahar et Damer imitaient simplement les autres, mais le deuil fait aussi partie de leur coutume. En évitant de m'imposer, bien entendu, je les ai regardés boire à la mémoire d'Ébène. Sans mentionner son nom, ils avaient servi un gobelet pour lui. Bassan et Netan savent qu'ils peuvent mourir n'importe quand, et ils acceptent leur destin. Jahar s'attend à mourir. Chaque jour, il pense que c'est le dernier. Chaque heure, même.
Katsuane parvint à s'empêcher de regarder l'autre sœur, qu'elle avait rarement entendu parler autant. Impassible et extérieurement très calme, Mérise était pourtant bouleversée. Ça se sentait.
« Je sais que tu t'entraînes à te lier à lui, »
dit Katsuane, pesant ses mots. Quand on évoquait son champion avec une autre sœur, la délicatesse était de rigueur. Ça consistait, par exemple, à rester concentré sur le combat dans la cour, au lieu de la dévisager. Une forme de politesse très pratique, quand on avait d'autres raisons de s'intéresser à la passe d'armes entre deux hommes.
« As-tu déterminé si le jeune Altor a réussi à Shaddar Logoth ? Il aurait vraiment purifié la moitié masculine de la source ?»
Corel aussi s'entraînait à se lier avec Damer. Obsédé par une question futile, comment faire avec le Saïdar ce que cet homme réalisait avec le Saïdin, elle n'aurait pas vu la souillure du ténébreux si elle l'avait eu sous le nez. Pas pour la première fois, Katsuane regretta de ne pas avoir reçu le châle 50 ans plus tard. Dans ce cas, elle se serait liée elle-même à un de ces hommes, et elle n'aurait pas eu besoin d'interroger les autres sœurs sur ce sujet. Mais 50 ans, voilà qui aurait situé la mort de Norla, dans sa petite maison des collines noires, longtemps avant que Katsuane Melaidrin soit entrée à la Tour Blanche. De quoi altérer grandement l'histoire. En particulier, il aurait été presque impossible que Katsuane se trouve dans sa situation actuelle, et de très loin même. En conséquence, elle avait posé la question avec toute la délicatesse requise, et attendait la réponse.
« Je ne sais pas trop, Katsuane, »
soupira Mérise.
« Le Saïdar est un océan paisible qui peut emmener une personne où elle veut. » Si elle connaît les courants et se laisse porter. Le Saïdin, c'est une avalanche de pierres embrasées ou une montagne de glace qui s'écroule. Il semblait moins souillé que lors de ma première connexion avec Jahar, mais dans ce chaos, n'importe quoi peut se cacher. N'importe quoi.
Katsuane acquiesça. À vrai dire, elle ne s'attendait pas à une autre réponse. Comment espérer avoir des certitudes sur une des deux plus importantes questions du monde ? Alors qu'elle n'en avait pas sur les sujets les plus triviaux. Dans la cour, la lame de bois de l'âne s'immobilisa à un demi-pouce de la gorge de Jahar.
même avec une épée d'entraînement, un tel coup aurait fait de terribles dégâts. Son attaque placée, l'âne se remit en garde. Nathan se leva, mais Jahar lui fit de nouveau signe de rester où il était. Petit, musclé et aussi hâlé que Jahar, alors qu'il était kerienien, le troisième champion de Mérise, Bassan, éclata de rire, puis lança une pique sur les types trop ambitieux qui se prenaient les pieds dans leur propre lame. Thomas et Damer se regardèrent, puis secouèrent la tête. En général, les hommes de leur âge avaient depuis longtemps renoncé à ce genre de raillerie. Le combat reprit de plus belle. L'âne et Jahar n'avaient pas que quatre champions pour spectateurs. Assise sur un banc rouge, une fille à la longue natte noire regardait le duel avec de grands yeux. En l'étudiant, Katsuane fronça les sourcils. Pour qu'on la prenne pour une Aes Sedai, ce qu'elle était, formellement, Nineveh aurait dû exhiber sa bague au serpent. Pas seulement parce qu'elle avait l'air d'une gamine, Beldaine paraissait aussi jeune, mais à cause de son comportement. Sur son banc, elle s'agitait, comme si elle allait se lever d'un bond. Et ses lèvres remuaient, à croire qu'elle envoyait des encouragements silencieux à l'âne. Une ou deux fois, elle bougea même les mains, pour illustrer comment il aurait dû manier son épée. Une fille frivole, dominée par ses passions, et dont on pouvait se demander si elle avait un cerveau. Min n'était pas la seule à avoir renoncé à son cœur et à son esprit pour un homme. Alors que les sœurs jaunes épousaient très rarement leur champion, le point rouge peint sur le front de Nineveh, une coutume du Malkier, ce royaume depuis longtemps disparu, indiquait qu'elle était la femme de l'âne. Très peu de sœurs contractaient ce genre de mariage. Cela dit, l'âne n'était pas le champion de Nineveh, même s'il s'efforçait de le faire croire à tout le monde. La véritable allégeance de l'âne, voilà bien un sujet qu'ils évitaient, furtifs comme des voleurs qui se fondraient dans les ombres. Mais il y avait plus intéressant et plus dérangeant. Les bijoux de Nineveh. Un long collier d'or, une fine ceinture du même métal et un assortiment de bracelets et de bagues incrustées de pierres précieuses rouges, vertes et bleues qui juraient avec le jaune de sa robe. À la main gauche, elle arborait des anneaux d'or reliés à un bracelet par des chaînes plates. Un angréal bien plus puissant que les ornements des cheveux de Katsuane. Les autres bijoux, comme les siens, étaient des terangréals fabriqués à la même époque, pendant la dislocation du monde. Alors qu'une Aes Sedai pouvait avoir bien des mains menaçantes pointées sur elle, en particulier celles des hommes capables de canaliser. Eux aussi, on les appelait des Aes Sedai. Une sacrée bizarrerie, ça. Comme de rencontrer un mâle baptisé Katsuane. La question, en cette matinée pleine d'interrogations, alors que le soleil n'était même pas à mi-chemin de son zénith, consistait à savoir si Nineveh portait ses bijoux à cause du garçon ou des Achamans. Ou à cause de Katsuane Melaidrin? Nineveh avait amplement prouvé sa loyauté vis-à-vis d'un garçon de son village. En même temps, elle ne cachait pas qu'elle s'en méfiait. Quand elle le décidait, elle avait donc un cerveau. Tant qu'elle n'aurait pas la réponse à sa première question, Katsuane ne pourrait pas se fier à une fille très dangereuse. L'ennui, c'était que peu d'Aes Sedai, ces derniers temps, semblaient inoffensives.
Jahar devient plus puissant,
lâcha soudain Mérise. Un instant, Katsuane l'interrogea du regard. Plus puissant? La chemise du jeune achaman lui collait à la peau, alors que l'âne n'avait pas encore versé sa première goutte de sueur. Puis Katsuane comprit. Mérise parlait du pouvoir. Jahar devenait plus puissant dans le pouvoir. De quoi lever quand même un sourcil interrogateur. Depuis quand n'avait-elle pas eu une réaction plus violente? Ça remontait aux collines noires, des décennies plus tôt, quand elle avait commencé à mériter les ornements qu'elle arborait.
Au début, j'ai cru que les entraînements intensifs avec les achamans l'avaient amené à son maximum.
Pensive, Mérise plissa le front en observant les deux combattants. Non, c'était à l'intention du seul Jahar. Rien de très spectaculaire, mais significatif pour ceux qui savaient voir et interpréter son mécontentement.
« Ashadar Logoth, j'ai cru que je me faisais des idées. Il y a 3 ou 4 jours, j'étais presque convaincu que je me trompais. Aujourd'hui, je suis sûr d'avoir raison. Si les hommes renforcent leur pouvoir par étapes, impossible de dire jusqu'où ils iront. »
Mérise ne formula pas à voix haute sa grande inquiétude. À ce rythme, Jahar pouvait devenir plus puissant qu'elle. Énoncer une chose pareille était tout bonnement impensable pour une multitude de raisons. Bien qu'habituée à perpétrer des extravagances, plus d'une Aes Sedai se serait évanouie à la seule idée de se lier à un homme capable de canaliser, elle avait ses limites. Pas Katsuane. Pourtant, elle n'insista pas. Par la lumière, qu'elle détestait devoir se montrer délicate.
« Il semble content, Mérise. »
Les champions de Mérise l'étaient toujours, car elle les traitait bien.
Il est en pleine crise de... »
Mérise se tapota la tempe, comme pour toucher le vortex de sentiments et de sensations qui se déversaient du lien. Oui, décidément, elle était troublée.
« Pas une crise de colère, mais de frustration. »
De sa bourse, Mérise sortit une petite broche émaillée rouge et jaune qui représentait un étrange serpent doté de pattes et d'une crinière de lion.
« Je ne sais pas où le jeune Altor a trouvé ce bijou, mais il l'a donné à Jahar. Si j'ai bien compris, pour les Achamans, c'est l'équivalent du châle. Bien entendu, j'ai dû confisquer cet insigne. Jahar en est au stade où il doit apprendre à faire uniquement ce que je lui permets, mais ne plus avoir cet objet le perturbe. Dois-je le lui rendre ? En un sens, ce serait de moi qu'il le tiendrait. »
Katsuane sentit onduler ses sourcils. Encore une fois, et dans la même journée. Mérise demandait conseil au sujet d'un de ses champions. Bien entendu, Katsuane lui avait suggéré de sonder cet homme, mais ce degré d'intimité était impensable.
« Quoi que tu décides, ce sera bien, j'en suis sûr. »
Après un dernier regard pour Nineveh, Katsuane reprit son chemin, laissant Mérise caresser la broche tout en observant le duel. Dans la cour, l'âne venait de porter un autre coup décisif, mais Jahar exigeait encore une revanche. Quoique finisse par décider Mérise, Katsuane venait d'apprendre une chose qui lui déplaisait. Entre les Aes Sedai et les champions, les frontières étaient depuis toujours aussi bien définies que le lien. Les sœurs commandaient et leurs protecteurs obéissaient. Mais si Mérise, oui, tout particulièrement elle, qui gérait ses champions d'une main ferme, hésitait au sujet d'une broche, il allait falloir redéfinir toutes les règles, au moins avec les champions capables de canaliser. Car la tendance à se lier à des Achamans ne s'inverserait pas. Beldane en était la preuve vivante. Si les gens ne changeaient jamais vraiment, le monde évoluait avec une régularité dérangeante. Il fallait vivre avec, ou au minimum apprendre à survivre dans ce contexte. De temps en temps, avec de la chance, on pouvait influer sur les changements. Mais quand on en empêchait un, c'était pour en mettre un autre en chantier. Comme prévu, la porte du jeune Altor était gardée. Assise sur un banc, les mains croisées sur son giron, Alivia faisait partie du binôme de sentinelle. Cette Séanchanienne aux cheveux clairs s'était autoproclamée protectrice du garçon. Officiellement parce qu'il l'avait libéré d'un collier de Daman, mais il devait y avoir plus que ça. Pour commencer, Mine la détestait, et ce n'était pas de la jalousie classique. Alivia, à vrai dire, semblait n'avoir qu'une vague idée de ce que les hommes et les femmes faisaient ensemble. En revanche, il y avait une connexion entre le garçon et elle. On le voyait au regard qu'ils échangeaient, plein de détermination pour elle et pour lui empli d'espoir. Si difficile à croire que ce soit. Avant de savoir exactement de quoi il retournait, Katsuane avait la ferme intention de ne rien faire pour les séparer. Alivia regarda Katsuane avec une méfiance respectueuse, mais à l'évidence, elle ne la voyait pas comme une ennemie. Avec les adversaires de Rand, la Séanchanienne avait tendance à se montrer expéditive. L'autre sentinelle, également une femme, faisait environ la taille d'Alivia. À part ça, elle n'aurait pas pu être plus différente. Les yeux sombres et pas bleus, Elsa avait le visage sans âge d'une Aes Sedai, alors qu'Alivia, les cheveux discrètement zébrés de blanc, arborait les ridules de la maturité. Dès qu'elle vit Katsuane, Elsa bondit sur ses pieds, s'enveloppa dans son châle et se campa devant la porte.
« Il n'est pas seul, »
dit-elle d'un ton glacial.
« Tu prétends vraiment me barrer le chemin ?»
répliqua Katsuane, tout aussi froide. En principe, la sœur verte andorienne aurait dû s'écarter. Très inférieure dans le pouvoir, elle n'était pas censée hésiter, ni même attendre un ordre direct. Ça allait de soi. Pourtant, elle ne broncha pas, et ses yeux lancèrent des éclairs. Un vrai dilemme. Dans le manoir, 5 autres sœurs avaient juré fidélité au garçon, et celle qui avait été loyale à Elaïda regardait Katsuane comme si elle doutait de ses intentions envers lui. Ça soulevait une question intéressante. Pourquoi Vérine ne réagissait-elle pas ainsi? Cela dit, seule Elsa tentait de s'interposer entre Katsuane et le garçon. Son comportement empestait la jalousie, ce qui n'avait aucun sens. Elle ne pouvait pas se croire plus qualifiée pour conseiller Altor, et si elle l'avait désiré, comme champion ou comme amant, Mine aurait déjà sorti ses griffes. Sur ce plan, la jeune femme avait un instinct très sûr. Si elle avait été le genre de femme à faire ça, Katsuane aurait montré les dents.
À l'instant où elle allait ordonner à Elsa de s'écarter, Alivia se pencha vers sa compagne.
« Il l'a convoqué, Elsa. Si nous l'empêchons d'entrer, il sera agacé. Contre nous, pas contre elle. Laisse-la passer. »
Du coin de l'œil, Elsa regarda la Séanchanienne, puis elle eut un rictus méprisant. Dans le pouvoir, Alivia lui était infiniment supérieure. Elle dominait même Katsuane, mais elle était une naturelle, donc une menteuse, selon la vision du monde d'Elsa. Du coup, elle refusait de croire qu'Alivia ait pu être une damane et rejetait d'un bloc le reste de son histoire. Pourtant, elle coula un regard à Katsuane, puis à la porte, dans son dos, et tira nerveusement sur son châle. Rand agacé contre elle, son pire cauchemar.
« Je vais voir s'il peut te recevoir, »
maugréa-t-elle.
« Alivia, surveille-la. »
Sur ces fortes paroles, Elsa se tourna pour toquer délicatement à la porte. Une voix d'homme lui disant d'entrer, elle entr'ouvrit le battant et se glissa dans la pièce.
« Il faut lui pardonner, »
dit Alivia, avec son accent traînant si irritant.
« Elle prend son serment très au sérieux, c'est tout. Et elle n'a pas l'habitude d'être au service de quelqu'un. » « Les Aes Sedai n'ont qu'une parole, »
répondit sèchement Katsuane. Face à la Séanchanienne, elle avait l'impression de parler bien trop vite, à la mode du Kairien.
« C'est leur devoir, Alivia. »
« C'est vrai. Et pour information, je n'ai moi aussi qu'une parole. J'ai une dette envers Rand, et je ferai tout ce qu'il me demandera. »
Une remarque fascinante et une ouverture. Mais avant que Katsuane ait pu saisir la perche, Elsa revint, suivie par Algarin, sa barbe blanche parfaitement taillée. Avec un sourire qui accentua ses rides, le vieil homme s'inclina devant la sœur de légende. Des plus ordinaires, sa veste noire, coupée dans sa lointaine jeunesse, lui allait deux fois désormais, et son crâne se déplumait. Aucune chance de lui tirer les vers du nez sur sa rencontre avec le garçon.
« Il va te recevoir, »
annonça Elsa d'un ton grinçant. Katsuane passa à un souffle de montrer les dents. Mais Alivia et Algarin devraient attendre, si intéressant qu'il soit. Quand elle entra, le garçon était debout. Presque aussi grand et large que l'âne, il portait une veste noire ornée de fils d'or sur les manches et le col. Pour lui aller vraiment, ce vêtement ressemblait trop à l'uniforme des Achamans. Mais Katsuane garda la remarque pour elle. Le garçon la salua, puis désigna un fauteuil devant la cheminée. Quand il fut assise, il demanda si elle voulait du vin. Celui qui était sur la table avec deux gobelets avait refroidi, mais il pouvait en faire venir du chaud. Estimant avoir travaillé assez dur pour lui inculquer la politesse, Katsuane décida qu'il pouvait s'habiller comme il l'entendait. S'il avait encore besoin d'un guide, c'était sur des sujets plus importants. Inutile de gaspiller de la salive sur des futilités vestimentaires. Inclinant la tête avec grâce, Katsuane refusa le vin. Une boisson pouvait présenter plus d'une utilité. Par exemple, on pouvait la siroter quand on voulait du temps pour réfléchir, ou encore baisser les yeux dessus quand on entendait les cacher à son interlocuteur. Mais ce jeune homme-là, il fallait avoir l'œil dessus en permanence. Impassible, il lâchait presque aussi peu d'informations qu'une sœur. Avec ses cheveux roux foncés et ses yeux bleu-gris, il aurait pu passer pour un aïel. Mais peu de guerriers du désert avaient un regard si froid. En comparaison, le ciel grisâtre de la matinée était radieux. Et ça ne s'arrangeait pas depuis Shadar Logoth. Froideur, dureté, méfiance. La redoutable trilogie.
Algarin avait un frère qui pouvait canaliser, dit Rand en se tournant vers un fauteuil.
En plein mouvement, il vacilla. Éclatant de rire, il se retint à un bras du siège, comme s'il avait simplement trébuché. Mais il ne s'était pas emmêlé les pinceaux. Et il ne s'était pas connecté au Saïdin. Katsuane l'avait déjà vu tituber ainsi quand il le faisait, mais ses ornements l'auraient averti. Selon Corel, pour récupérer après Shadar Logoth, Rand avait seulement besoin d'un peu de sommeil. Bon sang, elle allait devoir le garder en vie. Sinon, tout ça aurait été pour rien.
Je sais.
Algarin semblant avoir tout dit au garçon, Katsuane s'autorisa une précision.
C'est moi qui ai capturé Marine, puis qui l'ai conduit à Tarvalon.
On aurait pu trouver étrange qu'Algarin en soit reconnaissant, mais Emarine, son frère cadet, avait survécu 10 ans après avoir été apaisé, parce qu'elle l'avait aidé à accepter sa condition. Les deux frères avaient été très proches. Le garçon s'assit, l'air troublé. Pour Emarin, il ne savait pas jusqu'à cet instant.
« Algarin veut être testé, » annonça-t-il.
Katsuane soutint le regard du garçon et ne dit rien.
Les enfants encore vivants d'Algarine étaient mariés, donc il se sentait peut-être prêt à céder son domaine à ses descendants. Quoi qu'il en soit, au point où on en était, un homme capable de canaliser en plus ou en moins ne ferait aucune différence. Altor ne broncha pas. Au fond, c'était peut-être lui qui soutenait le regard de Katsuane. Après un long moment, il hocha très légèrement la tête. L'avait-il mise à l'épreuve ?
Quand tu te conduis comme un imbécile, mon garçon, ne crains jamais que je m'abstienne de te le dire.
Après une seule entrevue, la plupart des gens se souvenaient que Katsuane avait une langue acérée. Le garçon, lui, avait besoin qu'elle lui rafraîchisse la mémoire de temps en temps. Il eut un grognement qui était peut-être un rire mélancolique. Katsuane se souvint qu'il voulait qu'elle lui enseigne quelque chose, sans être capable de préciser quoi. Aucune importance. Elle pouvait piocher dans une longue liste, et elle avait à peine commencé. Les traits toujours de marbre, Altor se leva d'un bond, et entreprit de marcher de long en large entre la cheminée et la porte. Dans son dos, il serrait les poings.
Avec Olivia, j'ai discuté des Seanchaniens. S'ils parlent de leur armée toujours victorieuse, c'est pour une bonne raison. Ils n'ont jamais perdu une guerre. Des batailles, oui, mais pas de guerre. Après une défaite, ils se réunissent autour d'une table pour déterminer ce qu'ils ont mal fait, ou ce que l'ennemi a bien fait. Ensuite, ils modifient ce qui doit l'être pour renouer avec la victoire.
Très judicieux,
fit Katsuane quand la tirade fut terminée.
Je connais des chefs qui font la même chose. D'Avram Bachéré, par exemple. Mais aussi Gareth Bryne, Rodel Ithurald, Agelmar Jagad. Même Pedron Nial procédait ainsi de son vivant. Tous de très grands généraux.
Oui, marmonna Rand, sans cesser de marcher. Il ne regarda pas Katsuane, à croire qu'il ne la voyait pas. En revanche, il l'entendait, et avec un peu de chance, il l'écouterait.
Cinq grands chefs, oui. Mais tous les Seanchaniens font ça, depuis des milliers d'années même. Ils modifient ce qui doit l'être et ne baissent jamais les bras.
Tu envisages qu'ils soient invincibles ?
Demanda Katsuane, très calme. L'équanimité était toujours adaptée avant de connaître les faits, et après aussi le plus souvent.
Je peux finir par les vaincre,
lâcha le garçon, avec un gros effort pour rester courtois. Une bonne chose, ça. Moins Katsuane devrait prouver qu'elle sanctionnerait tout manquement à ses règles, mieux ça vaudrait.
Mais...
Rand s'interrompit, gêné par les éclats de voix qui montaient du couloir. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit et Elsa entra à reculons, sans cesser de crier. Les bras en croix, elle tentait de retenir deux Aes Sedai. Le visage pour une fois rubicon, Eriane essayait de pousser sa collègue verte. Sa reine, belle à en faire paraître Eriane quelconque, affichait plus de sérénité, comme il seyait à une sœur blanche, mais elle secoua la tête assez violemment pour faire s'entrechoquer les perles accrochées à ses tresses. Même si elle se contrôlait, c'était une femme au sang chaud.
« Bartol et Rachan vont venir !»
annonça Eriane, son accent ilianien aggravé par la colère. Elle parlait de ses deux champions, laissés derrière elle à Kérienne.
« Je ne les ai pas envoyés chercher, mais quelqu'un a voyagé avec eux. Il y a une heure, je les ai sentis plus près de moi, plus proches encore. Ils ne sont pas très loin. « Mon Vitalien approche aussi, »
dit sa reine.
« Il sera là dans quelques heures. »
Elsa baissa les bras, mais sans cesser de foudroyer les sœurs du regard, si on en jugeait par la tension de ses muscles dorsaux.
« Mon Féaril sera bientôt là aussi, »
souffla-t-elle. Son seul protecteur. On les disait mariés, et une sœur verte, dans cette situation, prenait rarement un autre champion, tant que durait cette union. Katsuane se demanda si Elsa aurait signalé l'arrivée de Féaril, si les autres n'avaient rien dit.
« Je ne m'attendais pas à ça si tôt, » souffla Rand.
Un murmure, mais vibrant de détermination.
« Mais je n'aurais pas dû espérer que les événements se plient à ma volonté. Pas vrai, Katsuane ?»«
Il ne se plie à la volonté de personne, mon garçon. »
La sœur de légende se leva. Comme si elle ne l'avait pas vu avant, Eriane sursauta. Pourtant, Katsuane aurait juré que ses traits étaient aussi figés que ceux du garçon, et peut-être taillés dans le même marbre. Pourquoi les champions venaient-ils de Kérienne, et qui avait voyagé avec eux? Ces deux questions risquaient de se révéler cruciales. En attendant, Katsuane pensait avoir obtenu une nouvelle réponse du garçon, et elle allait devoir réfléchir très sérieusement à ce qu'elle lui conseillerait. Parfois, les réponses se révélaient plus épineuses que les questions.